Le Mag Europe sur Sensation.
Bonjour et bienvenue dans le Mag Europe sur Sensation, un Mag Europe évidemment consacré à la crise du coronavirus en Europe. Après la crise financière de 2008, celle des dettes souveraines en 2010, la crise migratoire en 2015, le vieux continent fait face aujourd'hui à un nouveau défi.
Le Mag Europe sur Sensation.
Pour en parler, deux eurodéputés répondront à nos questions, Laurence Farin et Marie-Pierre Vedret. Nous évoquerons avec elles la gestion de la crise par les institutions européennes, critiquées d'abord pour leur inaction et manque d'anticipation. Elles semblent réagir désormais au niveau attendu pour endiguer un maximum les effets et les conséquences des événements actuels. De la crise du coronavirus, il sera également question avec Guillaume Rotti, porte-parole en France de la Commission européenne. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, avait placé la question environnementale au cœur de son mandat. Devra-t-elle revoir ses ambitions à l'aune de cette crise historique? C'est l'une des questions que nous poserons à Guillaume Rotti. Enfin, vous l'imaginez, c'est l'ensemble du continent qui est confiné depuis un mois désormais. D'abord l'Italie, c'est ensuite tous les pays européens qui se sont soumis aux règles du confinement, avec des approches parfois divergentes. Nous voyagerons en Europe pour savoir à quoi ressemble le confinement ailleurs qu'en France, avec le témoignage de jeunes actuellement en Finlande, Espagne, Suisse et Norvège.
Le Mag Europe sur Sensation.
Ils sont eux aussi forcés de rester chez eux et de travailler à distance. Les députés européens ne chôment pas. Pour autant, des sessions plénières extraordinaires sont organisées à distance. Et à distance, nous sommes en ce moment en contact avec Laurence Farin.
Bonjour.
Vous êtes eurodéputée Modem, membre de la commission culture et éducation au Parlement européen. On va parler avec vous de la gestion de la crise par l'Union européenne, mais avant cela, est-ce que vous pouvez nous dire, ou plutôt nous raconter et nous expliquer comment vous travaillez à distance, comment vous assurez la continuité pour votre travail d'eurodéputé? Est-ce que le travail est fait tout de même à 100%, bien que confiné?
Alors je dirais qu'il est même fait à 120%, parce que cette situation qui nous préoccupe tous fait que nous parlons énormément et qu'il y a énormément de réunions qui sont organisées. Et comme le temps bouge un peu, finalement, on n'a plus les traditionnelles semaines de groupe, semaines de commission, etc. Tout est un peu concomitant en fonction des priorités. D'autant que j'ai une autre commission qui est la commission du développement régional qui a été très active dans la gestion de la crise parce qu'il y a eu des déblocages de fonds. Donc, nous avons eu des réunions. Donc, toutes ces réunions ont lieu, hein, que ce soit groupe politique, commission quand c'est nécessaire, voire j'ai fait des réunions avec la commissaire Gabrielle. Donc le travail parlementaire se poursuit absolument.
Comment vous jugez globalement l'action de l'Union européenne durant cette crise? Beaucoup ont critiqué son manque d'investissement et de réactivité au début de la crise, notamment envers l'Espagne et l'Italie. Aujourd'hui, les institutions semblent prendre la mesure du défi du coronavirus. Voilà, quel est votre regard là-dessus à vous?
Je dirais que l'Union européenne en tant qu'entité constitué de la, en tout cas le Parlement européen et la Commission ont vraiment été au rendez-vous. La question qui s'est posée, c'est la solidarité des États membres. C'est celle qui est toujours en question et sur laquelle on a beaucoup avancé. Donc les freins étaient plus dans certains pays qui traditionnellement sont plus opposés et à la solidarité financière et à l'interventionnisme européen. Mais aujourd'hui, je pense que les messages y sont très positifs. L'Europe, elle a été là sur tout ce qu'elle a pu dégager, sur que ce soit la réaction qu'on a eue avec le déblocage des fonds de cohésion à hauteur de 37 milliards, du côté de la Banque Centrale Européenne qui a pu stabiliser les marchés européens, mais aussi de la Banque Européenne d'Investissement qui va conforter les entreprises. Depuis la semaine dernière, la réunion de l'Eurogroupe, donc là, les chefs d'État, il y a eu aussi des avancées très importantes. Donc, l'Europe a été là. Il y a encore, bien sûr, des pays à convaincre sur la nécessaire solidarité financière dans ces périodes. On a encore une question importante sur quelle forme pourra prendre la mutualisation de la dette d'investissement pour demain. Mais le principe est acté, donc c'est ce qui est important.
Un mot pour terminer sur votre commission, notamment celle de l'éducation et de la culture. Quelles sont les actions mises en place pour soutenir les systèmes éducatifs européens et puis le monde culturel aussi en Europe? Est-ce que vous avez débloqué des fonds, par exemple?
Sur le plan de l'éducation et de la culture, là encore, on est dans des compétences d'appui, donc c'est un peu plus compliqué. Disons que nous avons vraiment été opérationnels sur les programmes gérés par l'Europe, donc que ce soit Erasmus+ ou Europe Créative pour la partie culturelle, bien sûr. Donc, ça veut dire Erasmus+, suivi des étudiants, report des dates, il y a la question de validation de diplôme qui doit être prise en compte. Sur Europe Créative, il y a beaucoup d'appels à projets qui ont été reportés aussi ou allongés pour permettre à tous les acteurs culturels de continuer à en bénéficier. Mais je pense que surtout sur la dimension éducation et culture, c'est notre réflexion pour l'après qui va être importante quand on se retrouve comme dans cette situation où 90 millions d'enfants européens sont confinés chez eux. En effet, il y a un besoin de coordination parce qu'on sait qu'il y a des ruptures aussi qui peuvent s'opérer, qui peuvent être très graves en matière de cohésion. Quand on voit l'impact absolument majeur sur le monde de la culture, là encore, on ne peut que déjà se féliciter des protections qu'il y a pour les copyrights, pour les auteurs, pour qu'ils continuent à vivre de leurs biens qui sont diffusés sur des moyens numériques, et puis à renforcer les budgets de la culture demain, mais ce sera aussi un combat sur les allocations budgétaires.
Merci Laurence Farin pour vos réponses. Je rappelle que vous êtes eurodéputée Modem, membre du groupe Renew au Parlement européen et notamment membre au sein de ce Parlement de la Commission Culture et Éducation. Merci encore à vous. Elle aussi est eurodéputée depuis mai dernier. Nous sommes désormais avec Marie-Pierre Védrenne en ligne. Marie-Pierre Védrenne, vous êtes eurodéputée, membre du Modem, vice-présidente de la Commission du commerce international au Parlement européen, mais aussi membre de la Commission et de l'emploi et des affaires sociales. On évoquait avec Laurence Ferrin la réaction des institutions au moment de cette crise du coronavirus qui est apparue fin février, début mars en Europe de façon très active. Et on faisait le constat d'une divergence parfois entre les institutions européennes qui voulaient plus de solidarité, plus d'Europe, et puis des États qui étaient eux moins parfois enclins à cette solidarité justement. Est-ce que vous aussi vous constatez ce décalage parfois entre les institutions dont le Parlement fait partie et puis les États?
Bonjour à tous. On peut constater effectivement ce décalage, mais parce que je crois qu'en fait, aucun État, même pas la France, même pas la Chine, n'était préparé à une telle crise. Et c'est peut-être aussi de cette non-préparation, en quelque sorte, qu'on n'envisageait pas une ampleur telle qu'on la connaît à l'heure actuelle, que les États n'étaient pas préparés et n'ont pas su s'unir pour une réponse bien coordonnée. Et la Commission européenne et le Parlement européen ont tout de suite, justement, demandé à ce qu'il y ait véritablement cette meilleure coordination, parce qu'on savait tous, ce virus, il ne connaît pas de frontières, et on allait être tous touchés, tous les États européens, mais même l'ensemble du monde. Donc c'était important de construire cette coopération et cette solidarité pour pouvoir apporter véritablement une réponse et protéger tous les citoyens.
Quel est le regard justement porté par le Parlement européen? Alors vous ne pouvez pas vous prononcer forcément pour l'ensemble des eurodéputés, mais au moins j'imagine pour votre groupe, puisque vous échangez souvent sur le plan mis en place par les États membres qui vont permettre d'investir 540 milliards d'euros pour sauver les économies européennes. Est-ce que ce plan est assez ambitieux selon vous ou alors pas suffisamment?
Il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs choses à dire. Sur le volet sanitaire, sur le volet économique, il faut déjà rappeler que sur la compétence sanitaire, ce n'est pas une compétence de l'Union européenne. Donc il y a des choses qui ont un petit peu tardé. Mais maintenant, on est véritablement dans une logique de meilleure coordination. Et sur le volet économique, la somme que vous venez d'annoncer, ça correspond donc à l'accord qui a eu lieu là en deuxième étape avec le groupe. Il y a eu déjà des premiers accords, et j'évoquais le déblocage des fonds de la politique de cohésion, avec des actions concrètes. Dire que c'est ambitieux, oui, je le crois. Dire que c'est suffisant, je ne le crois pas non plus. Donc c'est aussi pour ça qu'on porte une résolution et qu'on a tenu à ce qu'il y ait une session plénière pour pousser aussi les États à aller plus loin, parce que on le voit, les mesures de confinement qui ont été prises par l'ensemble des États membres, qui sont certes parfois divergentes et qui sont nécessaires pour protéger tous les citoyens, ont des conséquences économiques. Et il nous faut pouvoir travailler tous ensemble vis-à-vis de ces conséquences économiques, c'est-à-dire véritablement investir pour le futur et faire en sorte de porter des réponses économiques qui soient à la hauteur. Et là, je pense qu'on peut encore aller plus loin, même si ce paquet qui a été adopté par l'Eurogroupe est quand même positif par rapport aux discussions qu'il pouvait avoir en amont et les difficultés qu'on a évoquées tout à l'heure avec les visions divergentes des États membres.
Aller plus loin, est-ce que c'est aussi être favorable à une mutualisation des dettes comme certains le souhaitent, d'autres ne le souhaitent pas? Les fameux Corona bons, enfin ils ont plusieurs noms, mais cette mutualisation des dettes qui permettrait à des États de se financer pour l'après, pour la relance, à un coût moindre que s'ils faisaient tout seuls. Est-ce que le Parlement européen, selon vous, est favorable à ça? Est-ce que vous l'êtes?
Alors, il y a différentes visions de ce qu'on appelle mutualisation des dettes et de ce qu'on entend derrière ces Corona bonds. Nous, dans notre groupe et dans notre délégation, on voulait appeler ça des Recovery bonds parce que ça répond aussi à l'objectif que vous évoquez dans votre question, c'est-à-dire investir ensemble pour répondre à cette crise. Parce que quand on parle de mutualisation de la dette, et nous, ce qu'on porte aussi chez Renew, c'est mutualiser la dette qui est en train d'être faite maintenant, c'est-à-dire construire sur la situation présente, pouvoir y apporter des réponses pour construire l'avenir. Parce que ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que les dettes sont différentes d'un État à un autre, que nos amis italiens, nos amis espagnols ont des dettes plus importantes que nos amis allemands. Mais il nous faut, tout face à cette crise, pouvoir tous réinvestir ensemble. Donc c'est important effectivement de mutualiser les dettes que nous sommes en train de créer du fait de cette situation pour pouvoir investir ensemble.
Vous avez signé, Marie-Pierre Védrenne, co-signé une tribune dans Le Monde récemment, dans laquelle vous appelez, je cite, au développement d'un modèle de prospérité nouveau. On comprend que ça passe par forcément la transition écologique, des économies moins énergivores, plus respectueuses de la biodiversité. Pourtant, on a l'impression qu'aujourd'hui, ce n'est plus forcément la priorité. Ce qui compte, c'est de faire repartir l'économie coûte que coûte. C'est une phrase, une tournure de phrase qu'on entend souvent. Est-ce que ça veut dire, selon vous, que l'environnement et les ambitions environnementales, notamment portées au début du mandat par la Commission européenne, vont être mises de côté? Et aussi Emmanuel Macron, qui n'a quasiment pas évoqué son sujet dans son allocution du 11 avril. Du 13 avril.
Je ne partage pas totalement votre analyse sur la fin. Les citoyens français attendaient des réponses vis-à-vis du confinement, vis-à-vis de la situation. Mais la France est engagée vis-à-vis du Green Deal. Et vous rappelez donc cette initiative qui a été portée par Pascal Canfin, à laquelle je me suis associée avec de nombreux parlementaires. Parce que effectivement, ce que nous ne voulons pas, c'est que les ambitions que nous avons pendant la campagne et que nous avons cherché à porter pendant ces premiers mois de mandat, notamment donc ce Green Deal, ne soient pas mis de côté. Ce qu'on disait pendant la campagne est toujours valable à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on n'oppose pas l'économie et l'écologique et que bien au contraire, on peut construire une économie qui soit résiliente et qui soit performante sur la question du changement climatique qui crée en plus de l'emploi en local. Donc l'un n'empêche pas l'autre. L'économie coûte que coûte, oui, très bien, mais une économie qui réponde aux aspirations des citoyennes et qui soit résiliente.
Merci Marie-Pierre Védrenne pour vos réponses. Je rappelle que vous êtes eurodéputée, membre du MoDem, vice-présidente de la Commission du commerce international au Parlement européen et aussi membre de la Commission de l'emploi et des affaires sociales. Merci beaucoup.
Le Mag Europe.
En poste depuis 6 mois seulement, elle misait sur une relance en faveur de l'environnement et la transition écologique. Elle doit faire face aujourd'hui à la pire crise sanitaire depuis un siècle pour l'Europe. Ursula von der Leyen, la nouvelle présidente de la Commission européenne, pouvait-elle imaginer des débuts plus rocambolesques et critiquée pour son action au début de cette crise? Elle s'est excusée depuis et appelle de ses voeux à un sursaut communautaire. Nous allons en parler avec Guillaume Rotti. Vous êtes porte-parole en France de la Commission européenne. La Commission européenne qui a été, on va dire, critiquée au début de cette crise et peut-être encore beaucoup aujourd'hui sur son manque d'action, de réaction plutôt au début de cette crise. C'est vrai aussi que Ursula von der Leyen arrive dans un contexte, puisque c'est le début de son mandat, ça fait 6 mois qu'elle est en place, assez particulier. Est-ce que vous comprenez ces critiques qui ont pu être exposées à l'encontre de la Commission européenne sur son manque de préparation et d'action au début de la crise du Covid-19?
On a eu effectivement au niveau européen, et je crois que ça c'est, tout le monde est d'accord peut-être, un retard à l'allumage sur la coordination entre les différents États membres et entre les différentes réponses que chacun des États membre de l'Union a eu pour faire face à la crise du coronavirus. Après, nous, à la Commission, on a alerté sur cette épidémie depuis pas mal de temps. Hein. Dès janvier, il y avait des réunions qui étaient organisées entre les différents ministres de la Santé à Bruxelles pour échanger sur l'épidémie et évaluer s'il y avait un état de préparation suffisant en Europe pour faire face à une vague épidémique. On a une agence européenne qui s'appelle le Centre de contrôle des maladies infectieuses, dont c'est le métier de faire cette surveillance et qui a suivi un peu en direct chaque jour l'évolution de l'épidémie dans le monde et en Europe. En revanche, personne ne s'attendait à ce que l'épidémie s'enflamme aussi vite, en fait. Et donc, c'est vrai que, à la fois au niveau de l'Union européenne, mais aussi au niveau de chacun des pays, on a tous été un peu collectivement surpris par l'intensité avec laquelle l'épidémie s'est développée, notamment en Italie, puis en Espagne et en France, et maintenant dans tous les pays de l'Union européenne.
Qu'est-ce qui va changer, selon vous, dans l'Europe de demain, du fait des conséquences de cette crise? Est-ce qu'on ira vers plus d'Europe, plus de souveraineté mise à disposition des institutions, ou alors pas forcément, on va rester dans ce qui était fait en amont avant cette crise?
Il y a un point très clair, et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, et c'était déjà l'une des politiques que voulait porter la commission de la présidente von der Leyen, c'est, on va dire, retrouver la souveraineté industrielle européenne. Et donc on a vu que dans le domaine de la santé, que ce soit de la production de masques, de respirateurs, de certains médicaments aussi, parce qu'on a craint à un moment d'avoir des risques de pénurie sur certains médicaments, il fallait retrouver une autonomie au niveau européen. Et ça, je pense que c'est une vague qui, en tout cas du point de vue politique, sera portée par les instances européennes, sera portée par les États membres pour rapatrier sur le sol européen un certain nombre de productions stratégiques. Ça commencera vraisemblablement par la santé, mais je suis à peu près sûr que ce sera le cas dans plein d'autres secteurs industriels. Après, qu'est-ce que ça va changer au mode de fonctionnement de l'Union européenne? Est-ce qu'on va avoir plus de coopération, moins de coopération? La question est posée. Je pense que beaucoup de gens et beaucoup de citoyens européens ont ressenti un peu en négatif le manque d'action européenne, et la question n'était pas tellement l'Union européenne fait des choses négatives, c'était plutôt mais qu'est-ce que fait l'Union européenne et qu'est-ce que nous apporte l'Union européenne. Et donc je pense qu'il faut avoir cette discussion entre les membres de l'Union, ceux qui constituent cette Union, pour se dire bah, dans une crise comme ça, quelle valeur ajoutée pourrait avoir plus de coopération. Et je crois que chacun des pays s'est rendu compte que ça faisait du sens quand même de pouvoir compter sur son voisin pour lui envoyer des patients, de pouvoir compter sur son voisin pour obtenir des masques quand on n'en avait pas, de pouvoir compter sur son voisin pour avoir une chaîne d'approvisionnement agricole qui fonctionne et s'assurer que les gens aient toujours des supermarchés remplis, même en période de confinement et d'activité économique réduite. Donc je crois que l'intérêt de l'Union européenne peut se voir dans une crise comme ça et sur plein de sujets concrets, c'est vu. En revanche, il n'y a pas eu de voie ou de mécanisme un peu unique qui a pu porter ça. Et donc ça, il y aura vraisemblablement des discussions sur est-ce que dans le domaine de la santé, il ne faut pas coordonner un peu plus les différentes actions? Est-ce qu'il ne faut pas avoir à un moment une autorité, une agence? On a déjà une agence, mais qu'elle soit un peu plus puissante et qu'elle impose des règles communes, notamment sur quelles mesures prendre aux frontières, sur quel type de comment on teste les malades, quelles mesures sanitaires on peut prendre dans une épidémie comme ça qui à une nature mondiale et européenne.
Guillaume Rotti, le temps manque. Est-ce que rapidement, je peux vous poser une dernière question à propos notamment de l'ambition initiale avant cette crise sanitaire de la Commission européenne et de sa nouvelle présidente? C'était la transition écologique, le Green Deal notamment. Aujourd'hui, forcément, tout cela est plus ou moins mis de côté. Est-ce que la priorité environnementale va descendre dans l'échelon justement des priorités de la Commission européenne?
Il y a une réponse immédiate, c'est on est en train de vivre l'une des crises économiques les plus importantes qui ait jamais été vécue en Europe et dans le monde. Donc bien sûr que la priorité, ça va être de s'assurer que les conséquences économiques et sociales de cette crise soient les moins fortes et les moins longues possibles. En revanche, la priorité et l'importance de la lutte contre le changement climatique n'a pas changé avec l'arrivée du coronavirus. Ça reste un impératif de long terme, et arriver à la neutralité carbone en 2050 doit rester un objectif de l'Union européenne, et il faut s'y tenir parce que les enjeux climatiques sont toujours présents, et on sait que les conséquences de ne pas agir sont tout aussi dramatiques que celles de la crise qu'on vit actuellement. Donc ce serait vraiment faire l'autruche que de dire on repousse la priorité écologique. Donc il faut arriver à concilier les deux, ce qui est loin d'être facile, mais il y a pas mal de réflexions sur justement comment on peut faire en sorte que les solutions qu'on apporte à cette crise économique et sociale, les éléments de plan de relance qu'on fait, soit nous aident à accélérer et à avancer vers une économie neutre en carbone en 2050. Donc c'est se dire, y a tout un tas de nouvelles activités à inventer. Il faut peut-être, c'est maintenant le bon moment pour pousser l'économie circulaire pour qu'elle se développe vraiment en Europe. J'ai mentionné tout à l'heure la renationalisation, en tout cas la rapatriation de certaines industries. Il y a pas mal de tendances qu'on peut essayer de pousser encore plus fort et de les mettre dans le plan de relance pour sortir de la crise du coronavirus et qui auront une contribution très importante à la neutralité carbone de l'Europe en 2050.
Donc possible de faire les deux si je vous comprends bien. Merci.
Nécessaire de faire les deux.
Merci Guillaume Rotti pour vos réponses. Je rappelle que vous êtes porte-parole en France de la Commission européenne. Merci beaucoup.
Le Mag Europe.
Le coronavirus est aussi cette triste réalité en Europe. Plus de 80 000 décès, personnes décédées du Covid-19 sur le continent. Italie, Espagne et France sont bien sûr les pays les plus touchés et ceux peut-être qui pratiquent le confinement de manière la plus stricte. De la Suède qui n'applique pas officiellement de confinement généralisé à l'Autriche ou le Danemark qui rouvre certains commerces et écoles. À quoi ressemble le confinement ailleurs en Europe? C'est la question que nous avons posée à plusieurs jeunes confinés ailleurs qu'en France. Première destination, la Finlande.
Pour un petit peu détailler les mesures qui ont été prises par le gouvernement finlandais, les écoles, les universités, les bibliothèques, tous les lieux publics sont fermés. Et depuis quelques jours, les restaurants et les bars aussi. Et la zone géographique d'Helsinki, en fait, est sous le coup de restriction. C'est-à-dire qu'on ne peut plus rentrer et sortir comme on le souhaite de cette zone pour éviter pour limiter la propagation du virus, car la majorité des cas en Finlande de coronavirus se trouvent dans la région d'Helsinki. Mais on n'est pas confiné, pas comme en France. On peut continuer à sortir. Alors le gouvernement a demandé est-ce qu'on reste, qu'on profite plus de la forêt et qu'on évite d'aller en ville, en fait. Nous sommes en télétravail depuis 2 semaines, ça me fait gagner en autonomie, je peux décider de mes journées comme j'entends, j'ai pu faire le trajet, donc c'était quand même 45 minutes l'aller et 45 minutes retour, donc le temps qui est dégagé est quand même non négligeable. Depuis mon arrivée en France, je m'étais remis au sport, mais là j'essaie d'en faire vraiment d'en faire tous les jours et de profiter de la forêt qui est au bout de ma rue. Donc j'essaie d'aller me balader en faisant attention, en gardant les distances de sécurité. Je fais en sorte de me retrouver là où il y a le moins de monde possible. Je prends vraiment mes précautions. Et juste un peu, c'est indicatif, en Finlande, il y a 5,5 millions d'habitants et environ 600 000 habitent à Helsinki. Donc moi qui viens de région parisienne, j'avoue que il n'y a pas grand monde sur les trottoirs, on va dire. Après, je pense que le plus dur, c'est de plus être tous ensemble au bureau. L'ambiance qu'il y a là-bas me manque. Ce qui manque aussi, c'est les différents événements auxquels j'allais le soir. On participait par exemple à des cours de finnois le mercredi soir avec la volontaire espagnole. Depuis que je reste à l'appartement, je prends plus soin de moi. Je me suis mis à la cuisine un peu plus qu'avant. Je fais plus de sport. Mais après, je rencontre moins de nouvelles personnes. Et pour le moment, mes projets de voyage en Finlande et dans les pays limitrophes sont suspendus. Voilà. Et en arrière-plan, vous entendez mon coloc qui s'est mis à la musique.
Et puisque nous sommes au nord de l'Europe, nous allons y rester encore quelques minutes pour savoir désormais comment se passe le confinement en Norvège.
Alors ici, les mesures ont été mises en place le 13 mars. Nous avons reçu les informations la veille au soir et tout a été mis en place dès le lendemain matin, donc ça a été assez rapide. Les écoles ont fermé, les salles de sport, les théâtres, les cinémas, tous les endroits où il y avait des activités sociales ont fermé. Alors concernant les mesures en Norvège, c'est un petit peu plus souple qu'en France. Dès que les mesures ont été annoncées, la plupart des personnes qui le pouvaient ont commencé à faire du télétravail. Et pour celles qui ne le pouvaient pas, qui devaient se rendre sur leur lieu de travail, eh bien on continue de le faire normalement. Les restrictions sont plus souples concernant les déplacements. On n'a pas besoin d'autorisation, par exemple, pour aller faire ses courses. On est libre de sortir. D'aller où on veut, simplement on doit rester dans notre commune. On n'a pas de restrictions en termes de kilomètres, mais on doit rester dans l'enceinte de notre commune.
pas en Europe d'un point de vue politique et institutionnel, elle ne l'est pas moins géographiquement. La Suisse est elle aussi confinée.
Hello, moi c'est Christophe, j'ai 23 ans et je suis pâtissier en restauration. Je vis à Montreux, en Suisse, et du coup, bah, ici, pour lutter contre l'épidémie, il y a pas mal de choses qui ont été mises en place, comme essayer de rester un maximum à la maison. On n'est pas vraiment confiné, donc on peut sortir si on a envie. Il faut juste limiter vraiment, limiter les accès publics, tout ce qui est parc, tout ça, ça a été fermé. On essaie vraiment de juste limiter aux courses et pas non plus être trop ensemble. Au maximum, c'est 5 personnes. Et du coup, bah, moi, pendant ce temps-là, bah, du coup, moi, je suis au chômage technique. Bah, je fais pas mal de pâtisserie à la maison, je fais pas mal de vidéos, je fais des lives sur Instagram, j'essaie de m'occuper comme ça, j'essaie de prendre du temps aussi pour avancer sur les nouvelles recettes qu'on va faire sur le restaurant dès qu'il va réouvrir. J'ai réussi, grâce à ça, au final, grâce à ce temps passé à la maison, à lancer mon site internet, à mettre en place des e-books en vente. Enfin, j'ai vraiment réussi à atteindre un objectif qui était assez loin dans le temps parce que, justement, j'arrivais pas à me consacrer à ça vraiment. Ça permet aussi de réfléchir à soi et de se prendre vraiment du temps pour soi, faire à manger, pour être à la maison. On a vraiment pas beaucoup de temps en restauration d'être à la maison, de pouvoir profiter du temps.
On termine ce tour d'Europe par l'Espagne, deuxième pays le plus impacté par le virus. C'est Léa, habitant de Barcelone, qui nous raconte son confinement sur place.
Bonjour, je m'appelle Léa, je vis à Barcelone, Espagne. Ce confinement se passe en réflexion personnelle et collective. Se rendre compte que les petites choses et les petits actes sont vraiment simples. Et que vraiment, on n'a pas besoin beaucoup de vivre seulement. Et une réflexion encore plus profonde, c'est qu'on a besoin un des autres. J'essaye de mettre en place des choses qui changent notre système de vie. C'est pas facile, mais je crois que dans ce temps de confinement, c'est la meilleure option pour passer le temps. Pour essayer de se rééquilibrer, se reconnecter et se rendre compte de ce qui est important dans la vie. Comme notre planète, comme les interactions sociales, comme seulement une parole, une aide, ou simplement être à côté. Alors dans ce temps d'isolement où on est loin de les gens qu'on aime, bah, j'essaye de réfléchir comment je pourrais, après, remettre en place le temps avec les gens. Et pas uniquement prise dans cette routine de société où tout va en rythme accéléré.
C'est la fin de ce mag Europe consacré à la crise du coronavirus sur le vieux continent. Retrouvez cette émission en podcast, audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.